19h34, passé de 20 secondes. Bonsoir Léa, bonsoir Sarah.
Bonsoir Rémi.
C'est parti pour... C'est fantastique, parfaitement en cœur. Allez, c'est parti pour le journal de la culture.
Coucou Léa, alors tu m'as parlé de décentralisation culturelle tout à l'heure.
Oui, car à l'occasion du référendum de dimanche dernier concernant l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie, je me suis penchée sur les politiques culturelles menées actuellement par l'État français en Outre-mer. Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent, stipule l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Certes, mais en pratique, ça se passe comment ? On le sait, l'expression culturelle, tout comme l'accès aux productions culturelles, ne vont pas de soi. Elles ont un coût tout d'abord, et puis besoin d'un certain espace dans lequel se déployer. Espace physique certes, mais un espace institutionnel peut aussi aider. Et cet espace, il faut encore qu'un public puisse y accéder. Ainsi, il est plus facile d'aller au théâtre quand on habite à Paris que dans un petit village au fin fond de la Creuse. Mais, contrairement aux apparences, il y a pire que la Creuse. Car, comme le disait Mathilde Serel sur France Culture, en termes d'équipement culturel public, les 13 000 habitants de Guéret, dans la Creuse, sont mieux lotis que les 160 000 de Fort-de-France. Attention, je ne dis pas que ces territoires d'outre-mer sont plus pauvres culturellement que les territoires métropolitains. Bien au contraire. Ils sont lieux d'épanouissement d'une culture foisonnante et riche, produit d'une histoire haute en couleurs. Mais cette culture ne dispose pas forcément des mêmes facilités d'expression qu'en métropole. En avril dernier, dans le cadre du plan « Culture près de chez vous », avait été révélée une cartographie des équipements culturels publics, cartographie qui dessinait un véritable gruyère, montrant les limites de cette décentralisation culturelle dont on parle tant, mais qui est si difficile à concrétiser. Cette cartographie identifiait 86 territoires dotés de moins d'un équipement culturel pour 100 000 habitants. La moitié de ces déserts culturels étaient concentrés dans 8 départements, dont 4 sont d'outre-mer. Vous connaissez sans doute le dicton « La culture, c'est comme la confiture, moins on en a, plus on l'étale ». Eh bien, pour continuer à filer des métaphores culinaires, peut-être serait-il temps d'étaler enfin plus uniformément notre culture, ou de... D'étaler enfin plus uniformément notre confiture, ou plutôt, devrais-je dire, nos confitures. Promenons-nous dans les bois, pendant que Louis n'y est pas. Alors Sarah, ne m'as-tu pas soufflé que tu avais pénétré dans le bois de Boulogne pendant les vacances ?
Oh Léa, tu me connais trop bien. Je suis étonnée. Mais laisse-moi vous éclaircir sur cette délicieuse concupiscence. Sais-tu ce que recèlent les bois, chère Léa ? Un jardin d'acclimatation où l'on exhiba quelquefois des singes ? Pardon, je voulais dire des gens pas tout à fait blancs ni tout à fait européens. Puis il doit y avoir deux ou trois mots dans Body Léopard, et je passe les détails de la flore intestine pour arriver à l'essentiel. La fondation Louis Vuitton. Moi, c'est pas tellement la faune canine que je visite à Boulogne, mais plutôt le petit Louis, à défaut de petit Grégory.
Revenons à nos moutons, à nos agnons, Sarah. Tu pestais à cause de la pluie à Paris et des queues longues comme des échelles de pompiers devant les musées. Si la file était si longue et déterminée, c'est qu'il devait bien y avoir un événement sympathique, non ?
Quel flair, Léa ! Je te verrais bien en Sherlock Holmes. Deux raisons m'ont convaincue de renoncer à tout principe pour accourir, à guichet malgré moi, à la fondation. D'abord le bâtiment, élaboré par Frank Gehry, qui vit à Los Angeles mais a travaillé aussi bien pour le Guggenheim de Bilbao que pour la DZ Bank Building de Berlin, entre autres. L'architecture de la fondation livre une impression de légèreté et de fantaisie aux allures futuristes. Faite de blanc, de vert, de bois et d'une pierre aux teintes pastel, elle vous attire telle une bulle de coton. Pour découvrir son vaste intérieur, à peine révélé de ci, de là, par des fenêtres ouvertes sur forêt, vous êtes capable d'attendre des heures. Oh oui, aussi doucereux soit le crachin et fielleuse la voisine de queue.
Et la seconde raison de ta détermination, Sarah ?
Les deux expos du moment. Plus de 120 œuvres de Jean-Michel Basquiat et un nombre similaire pour la centenaire de la mort de Egon Schiele. Ils sont visibles jusqu'au 14 janvier 2019. De la pure jouissance oculaire. L'expo principale demeure, je pense, celle de Basquiat, cet artiste des rues qui pressentit, d'après certains cartels, l'ère réticulaire d'Internet. Et surtout, dont les œuvres portent les germes de l'underground. Elles sont disposées selon des étages thématiques, bien expliqués par des cartels pédagogiques, faciles à lire, même au bout de deux heures de traînaillerie émerveillée. Basquiat et son matos de rue, Basquiat et ses grands héros, Basquiat contre le racisme, Basquiat et Warhol. Efficace et agréable. J'avais simplement vu deux ou trois de ces tableaux au cours d'expositions antérieures, et si je m'étais déplacée jusqu'à Neuilly, j'avoue, c'était plus pour voir la prometteuse expo Schiele que le pinceau de Jean-Mi. Mais j'avoue, je suis ressortie complètement convaincue. Et puis c'est sympa, entre deux étages, vous pouvez jeter un œil à la physionomie du gars. Une dizaine de photos le montrent à l'œuvre et franchement, il avait plutôt l'air sympa. Imaginez quand même, les trois têtes enfin réunies, des portes peintes, le fameux dinosaure des petits pèzes et le mur des têtes qu'avait exposé, selon le souhait de l'artiste, l'excellente Robert Miller Gallery de New York, celle-là même qui a exposé les photos de Patti Smith réunies dans le recueil Camera Obscura.
Et alors, Sheila, c'était comment ?
Toujours aussi agréable. Mais je pense que le Leopold Museum de Vienne a réuni cette année les œuvres principales, notamment les peintures. Il organise en effet une grande rétrospective à l'occasion du centenaire de la mort de Schiele, emporté par la grippe espagnole en 18. Remède foudroyant face aux problèmes de finances, essayez donc. L'expo Schiele de la Fondation est nettement moins développée que celle de Basquiat. Néanmoins, elle regroupe une centaine de ses dessins, plus quelques peintures, et des cartels toujours aussi intéressants pour les néophytes. Mais gare au monde, cela bouchonne tellement que j'aurais pu compter les poils des jolies dames aux jambes levées.
Mais heureusement, tu manques de grossièreté pour ce faire.
Je crains surtout de manquer de doigts. Enfin, oublions ce manque de tact et rappelons à nos auditorices que le bois de Boulogne, c'est pas mal quand Basquiat s'y invite. Avec un petit avant-goût des productions de Schiele en plus. Et tout ça pour 10 euros si vous êtes encore à votre première barbe. Alors sautez sur l'occasion et fourrez vos billets ailleurs que dans les gants doucereux de mode.
Bref, la double expo Basquiat-Schiele, c'est jusqu'au 14 janvier 2019 à la Fondation Louis Vuitton. Et c'est aussi agréable qu'instructif.
Et oui, courez-y chers auditorices, à moins que vous ne préfériez rester à Lyon. Et toi Léa, du coup, qu'as-tu à nous recommander par ici ?
Eh bien, je pourrais vous inviter, par exemple, à visiter l'île aux monstres ou la vallée des fées.
Vaste programme en perspective. Dis-nous en plus, on s'y rend comment ?
On prend ses deux jambes, un vélo, on saute dans un tram, on enfourche son fidèle destrier, on sort du placard son Imbus 2000 ou autre, et on file au musée des Confluences, dont les deux nouvelles expositions temporaires sont magnifiques.
J'imagine que tu as été les visiter ce week-end.
Tu imagines bien, Sarah. Ayant allègrement procrastiné durant cette semaine de vacances, j'ai sorti samedi après-midi mon précis de phonétique historique, l'ai ouvert, contemplé longuement, et me suis dit que cette exposition que je vous avais annoncée lors du dernier JRA, il était grand temps que je la visite. J'ai donc mis de côté ma mauvaise conscience et mes fiches de phonétique et je suis partie voir les derniers calaches au musée des Confluences, après avoir refait un petit tour parmi les lignes d'horizon d'Hugo Pratt qui, j'en profite pour le dire, habilleront encore le musée des Confluences jusqu'au mois de mars.
Et ces derniers calaches, Nikoff, comment vont-ils ?
Pour être honnête, ça n'a pas l'air d'aller très fort. Aujourd'hui, la communauté Kalash est estimée à 3000 membres, ce qui n'est pas beaucoup, vous en conviendrez, et elle subit diverses pressions de la part de ses voisins. Elle vit dans trois étroites vallées, encastrées au nord du Pakistan, vallées qu'elle partage avec des esprits invisibles, des fées, et ses voisins ont un peu de mal à composer avec cette société polythéiste, la dernière de l'arc himalayen. Mais ceci étant dit, l'exposition, elle, n'a rien de nostalgique ou de passéiste. Elle s'appelle d'ailleurs « Fêtes himalayennes » et nous présente les Kalashs à travers leurs fêtes sacrées, composées d'offrandes aux dieux, de danses rituelles, mais aussi de plaisanteries obscènes pour chasser les ténèbres et de joutes verbales, les beaux chants aux mots sales.
Oh ben ça m'intéresse alors.
Oui, je savais que ça t'intéresserait, Sarah. Mais j'ai même encore mieux pour toi. Car après avoir déambulé parmi de magnifiques chaussons, chamaniques ou non, et appris avec délectation ce qu'était le jour de l'hécatombe des boucs ou celui dit « en route pour les haricots », j'ai quitté avec regret l'univers enchanté des Kalashs pour pénétrer dans celui, tout aussi fascinant, de l'île aux monstres.
Tu parles, je suppose, de l'exposition Yokai no Shima, esprit du Japon ?
Exactement, Sarah, et là, je dois dire que ce fut un coup de cœur. L'idée, c'est de photographier des éléments traditionnels, mais hors du cadre spécifique de la tradition, justement.
Eh bien, le programme a l'air sympathique.
Et il l'est. Ce qui est remarquable, surtout, c'est que cette exposition soulève la question du regard que l'on pose sur une culture, et qu'ici le regard biaisé et étranger que le photographe français pose sur un univers culturel qui n'est pas le sien reste humble et assume ses limites. On sort des clichés habituels, en somme.
Si j'ai bien compris, tu nous recommandes donc d'aller faire un petit tour au musée des Confluences.
Oui, Yokai no Shima, l'île aux monstres et aux esprits, s'y est installée jusqu'en août 2019, et les fêtes himalayennes jusqu'au 1er décembre 2019.
Il giornale radiofonico dell'amplificazione.
Sur Transistor.
19h43 sur Transistor. Merci beaucoup Sarah et Léa pour votre journal de la culture.